Il me paraît inconcevable que l'on puisse prétendre que la radiodiffusion française n'est pas une radiodiffusion démocratique.
Le témoin de ce vendredi, Michel Tréguer, du petit écran d'autrefois au numérique.
Allô, allô, alerte sur tout le territoire. Personnage mystérieux échappe obstinément à toute tentative de classement selon critères philosophiques, religieux ou raisonnables. Prétend avoir au moins 1000 ans d'existence et même être immortel.
Michel Tréguer fut un bon élève, au point d'entrer sans coup férir à l'école polytechnique à 19 ans, en 1959. Un élève un peu particulier cependant. Il aime dire qu'il s'exprime en spirale quand ce n'est pas en fractale. Et il compte en millénaire. Le jadis l'intéresse encore plus que le passé. Et il faut ajouter l'avenir encore davantage. Quand il entre à l'ORTF en 1964, on le commet aux émissions scientifiques. Mais il s'échappe des rôles assignés, devenant bientôt réalisateur indépendant. Il signe des téléfilms et plus encore de documentaires, sans compter ceux que les directeurs consignent au placard. Il retrouve de plus en plus la Bretagne de son enfance. C'est un pays qu'il voit comme intemporel. Il aime compter en millénaire plutôt qu'en année. Il préfère le jadis au passé immédiat. Le plus excitant, c'est tout de même d'attendre l'avenir. Grand lecteur, auteur prolifique, l'ancien réalisateur vient ainsi de passer à l'auto-édition numérique. Pour qui aime les spirales et les fractales, l'hypertexte produit le bonheur d'un renouvellement constant grâce aux interventions des uns et des autres. Les commentateurs du Talmud procédaient déjà de la sorte. L'avenir retrouve le jadis.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Michel Tréguer, bonjour. On va vérifier les dates.
Bonjour, Jean.
Vous êtes aussi un homme d'exactitude. Vous êtes né en 1940.
Oui.
Vous aviez 19 ans à l'entrée à Polytechnique. Vous avez retrouvé la Bretagne de plus en plus à partir des années...
Fin 70. Mais je pourrais ajouter déjà que, justement, quand je rentre à l'IX, c'est parce que j'ai besoin de partir courir le monde un peu. Mais pourquoi l'IX? Alors que j'ai déjà dans la tête l'envie de faire autre chose, de faire des... Oui, peut-être des films ou de travailler plutôt dans les milieux artistiques. Ben, tout simplement parce que mes parents n'étaient pas riches et il fallait que je trouve des études gratuites. Et donc,
vous entrez par nécessité.
Voilà, c'est un peu par nécessité que
Par curiosité aussi.
Par curiosité aussi, parce que je garde un très très bon souvenir en fait de mon séjour à l'IX, bien que il m'ait pas servi sur un plan de carrière.
Alors, vous aviez été préparé aux études par un père excellent pédagogue. Instituteur public, qui est nommé donc au lendemain de la guerre dans une ville détruite à 90% que vont reconstruire des Français, mais aussi des Algériens, des Portugais. Vous avez fait un film plus tard sur ce Brest réduit en cendres.
Rappelle-toi, Barbara.
Quelques habitants, devancés par les rats, recommencent bientôt à hanter les ruines. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut un permis spécial pour habiter ce décor d'apocalypse.
L'état des routes était tel que je me souviens qu'il fallait aller à la pompe laver les galoches le soir. Puis on les mettait sécher auprès du feu ou bien dans un courant d'air, parce qu'il y avait assez de courant d'air, il y avait beaucoup d'air dans les maisons à ce moment-là, parce que quand nous sommes rentrés, il n'y avait pas de vitres. Après, on a obtenu, je pense que c'était un genre de tulle huilée qui était translucide. Mais alors, il ne permettait pas de voir ce qui se passait dans la rue. Alors, on clouait ça sur les fenêtres et ça tenait en principe bien, mais c'était pas facile de le redire. Alors, quand il y avait la tempête, il y avait toujours le vent qui passait, ça faisait un bruit infernal.
Quelle impression ça fait de vivre dans ce no man's land pendant des années d'enfance?
Voilà, c'était vraiment extraordinairement étonnant, quoi. Disons, tout était en baraque. La mairie était en baraque, le lycée était en baraque, des baraques assez misérables en plus, au milieu d'une ville en ruine. Et donc, nous habitions dans une baraque américaine, même pas en bois, en carton pâte, mais qui était relativement confortable. Bon, cela dit, comme tous les enfants, moi, j'ai surtout des souvenirs heureux de mon enfance. Hein. Mais enfin, quand j'y repense, c'était quand même naître dans un monde détruit. Et ça m'a sûrement quand même marqué.
Je suis le fils d'hommes et de femmes engloutis, écrivez-vous voilà. Dans Aborigène occidental, que voilà. Je rejoindrai un jour en se lit dans leurs
voilà.
Bras.
Le film que j'ai fait sur la destruction de Brest, c'était beaucoup plus tard. Hein. C'était en 95. Je crois que c'était pour le 50e anniversaire de l'armistice, de la fin de la guerre. Et j'avais appelé ce film Brest, une deuxième ville 10. Bon, la ville 10 qui a été engloutie par la mer, ben Brest a été engloutie par les bulldozers après. On a tout égalisé et actuellement, il y a un ou deux endroits où on retrouve l'ancienne ville à 10 mètres de profondeur sous la surface actuelle.
Ça veut dire que l'enfant que vous étiez se posait déjà peut-être la question, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Voilà, peut-être, parce que effectivement, je pense que ça m'a formé dans ce sens-là, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé si le monde qu'on nous présentait était, il fallait le prendre pour vraiment réel et sérieux, et s'il n'y avait pas d'autre chose à côté. Alors, il y a une autre raison à ça d'ailleurs, c'est que mes deux grands-mères étaient des Bretons parlant breton. On m'en a jamais dit un mot, et quand je m'en suis aperçu, je me suis aperçu finalement que on m'avait fait vivre en français dans un monde dont j'avais hérité et qui, lui, n'était pas de culture française.
Alix, vous entrez très jeune, vous parlez aussi une autre langue qui est la langue mathématique. C'est pour ça que quand vous entrez à l'ORTF en 64, on vous commet aux émissions scientifiques. Et vous vous apercevez que les grands scientifiques que vous rencontrez sont autres que l'image qu'on donne d'eux.
Oui, effectivement, j'ai eu envie, disons, j'étais content d'être à l'X et de faire des études de, bon, je pris ça un peu comme une culture générale, mais j'avais en moi, depuis mes 15 ans ou mes 16 ans, l'idée de travailler du côté du cinéma, disons, pour le dire rapidement. Et donc, étant à l'X déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en sortant? Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait une des portes de sortie qui menait à ce qui s'appelait encore à l'époque la RTF. Évidemment, c'était les ingénieurs de la télévision qui sortaient de l'X. Et donc, en regardant d'encore un peu plus près, j'ai vu qu'il existait un service dit de la recherche, mais ça voulait pas du tout dire la recherche scientifique, ça voulait dire de la recherche dans le milieu des émissions. La télévision était tout à fait commençante en 1960. Et donc, on est venu voir le personnage qui était responsable de ça, Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète. Et quand on est venu le voir, on était deux ou trois, on lui dit, voilà, on est à l'école polytechnique, mais nous, on aimerait bien faire autre chose que de la recherche scientifique. Il a dit, venez chez moi.
Vous et faites donc, de Pierre Schaeffer un portrait différent de ce qu'on lit d'habitude. Vous le décrivez comme un gourou un peu autoritaire. Oui. Mais c'est le propre de beaucoup des hommes de science que vous avez rencontrés.
Oui, absolument. Alors, j'ai rencontré, effectivement, une des premières émissions que j'ai faites s'appelait « Quatre savants, une science ». On voyait passer un certain nombre de savants et je les interrogeais un peu sur leur philosophie de la vie et leur philosophie de la science. Et la seconde émission, c'était déjà un portrait de Claude Lévi-Strauss, qui était un portrait peu banal, hein, puisque en gros, je l'avais enregistré, je l'avais filmé, parlant de son savoir, de l'anthropologie, des autres civilisations. Et pendant qu'il parlait, sans rapport direct entre son texte et l'image, la caméra se promenait dans le monde entier. On voyait des Indiens d'Amazonie, on voyait des techniciens parisiens, on voyait un peu tout le monde. Cette émission avait énormément plu à Jacques Lacan, qui m'a courtisé pour que j'en fasse une autre avec lui, et j'ai jamais osé.
Mais il y a aussi les émissions qui ne voient pas le jour. On entendait en exergue un directeur ou un ministre dire que la radio-télévision française est démocratique. Vous avez souvent vu des émissions au placard. Oui. On peut prendre un exemple que vous racontez. Michel Rocard est Premier ministre.
Oui.
Une interview de son père, qui depuis pas mal d'années est converti à l'étude de la sensibilité magnétique et prend goût pour les sourciers.
Voilà, le père de Michel Rocard, donc Yves, était un physicien qui était l'un des pères de la bombe A française, gaulliste devant l'éternel. Et il avait rencontré un jour un sourcier, bon, ce serait trop long de raconter dans quelles circonstances, et il avait été ébloui par le savoir de cet homme. Et donc, il avait voulu travailler de manière scientifique sur le savoir des sourciers. Alors bon, moi je dis, on va faire le père avec les sourciers, et au milieu, on verra passer juste une image du Premier ministre de l'époque, qui était Michel Rocard. Et donc, le film est programmé sur TF1, et puis les conseillers du Premier ministre ont vu le film, et ils ont convaincu le Premier ministre que ça pourrait abîmer son image de se présenter comme le fils d'un physicien aussi dissident que son père. Et donc, le Premier ministre a téléphoné à Francis Bouygues en lui demandant de ne pas passer le film sur TF1. Et Michel Rocard a censuré son père, on peut quand même dire ça.
Mieux vaut encore tenir des magazines. Encore qu'on peut être viré d'un magazine. Alors, vous avez eu Eureka, oui. Vous avez eu aussi Saga, oui. Aussi d'ailleurs la présentation du début de Saga. Je ne sais si c'est vous ou un journaliste. En tout cas, il y a un singe. Enfin, il faut le dire parce qu'il est un peu muet, le singe.
Saga, Saga. Voici le premier numéro Saga. Allons, sois gentil.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un véritable désastre. Nous devions vous présenter ensemble cette émission et... au dernier moment, il refuse absolument d'apprendre à parler. Attends, tu veux pas dire à nos amis qu'il faut absolument qu'ils restent avec nous, parce que dans la deuxième partie de l'émission, ils auront droit à une information tout à fait extraordinaire. Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas leur dire que le ministre des Armées, le directeur général de l'EDF, celui des télécoms, ont très peur de ce qu'on va dire tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Non, tu veux pas.
Saga, c'était quelle chaîne ?
C'était la première, qui était encore publique.
Ouais.
Qui était encore publique.
Vous allez nous raconter maintenant comment vous passez, Michel Tréguer, au chemin creux de Bretagne et où vous faites le réapprentissage du breton avec plus de succès que le singe pour le français. Mais vous aviez quand même un peu perdu la langue quand vous vous êtes décidé à aller de temps en temps réaliser des émissions en breton. Pour oui. France 3, Ouest-Bretagne.
En fait, on ne m'a jamais appris le breton dans mon enfance. Je l'ai entendu parce que c'était dans l'environnement. Mais disons que jamais on me l'a apprise et jamais on m'a même laissé entendre que j'aurais pu l'apprendre. Donc, en fait, au départ, je la redécouvre. Ce serait trop long de raconter comment, mais à Paris. C'est à Paris que, alors que je suis donc réalisateur de la télévision française, que... je me mets à réapprendre la langue de mes ancêtres pour le plaisir uniquement et sans aucune interférence professionnelle. Et puis un jour, quand je commence, disons, à l'écrire ou à la parler un petit peu, je vois passer une note de service de France 3 qui dit qu'il va y avoir désormais aussi à Rennes des émissions en langue bretonne et qu'ils aimeraient bien trouver des réalisateurs qui la parlent un peu. Et donc, je me suis porté candidat. Et ensuite, donc, des années 77 à 90, disons, ou même un peu plus tard, j'ai partagé ma vie entre je faisais à Paris des émissions françaises et puis le week-end ou quelquefois 15 jours pendant l'été, je partais à Rennes pour faire des films en breton. J'en ai fait aussi pas mal, des fictions et des choses comme ça.
On va entendre les sœurs Goadec. Alors que ça... vous avez fréquentées oui. pour la radio et pour la télévision. Oui. qui sont maintenant statufiés à Carhaix, oui, non loin de leur village de Treffrin. Il y a un grand moment, que vous partagez d'ailleurs avec un ethnologue, Donatien Laurent, qui est un de vos amis importants.
Oui.
Elles vont retrouver la série des comptines qui ouvre le grand recueil de chants populaires du 19e siècle en Bretagne, le Barzaz-Brez,
oui.
d'Erzard de la ville marquée.
C'est le deuxième chant du Barzaz-Brez.
Le deuxième chant. Voilà. J'ai dit que vous étiez soucieux d'exactitude. Alors voilà ce que ça donne.
J'aurais pingioré.
J'aurais fait partie.
Pour gagner une ziganide.
Pour gagner une ziganide.
Pour un deux à un terrain. Pétra, oui, est vraiment.
Diaboli de Wari. Pour un deux à un terrain. Petra glace que c'était vraiment.
J'avais pinturé.
J'avais fait ta fatigue.
Organe un diganide.
Tout beau, bel enfant du druide. Réponds-moi. Que veux-tu que je te chante ?
Chante-moi la série du nombre 1, jusqu'à ce que je l'apprenne aujourd'hui.
Pas de série pour le nombre 1. La nécessité unique. Le trépas. Père de la douleur. Rien avant, rien de plus. Tout beau, bel enfant du druide. Réponds-moi. Que veux-tu que je te chante ?
Chante-moi la série du nombre 2, jusqu'à ce que je la prenne aujourd'hui.
Deux bœufs attelés à une coque. Ils tirent, ils vont expirer. Voyez la merveille.
Chante-moi la série du nombre 3.
Il y a trois parties dans le monde. Trois commencements et trois fins. Pour l'homme comme pour le chêne. Trois royaumes de Merlin, pleins de fruits d'or, de fleurs brillantes, de petits enfants qui rient.
Trois parties dans le monde, deux bœufs, la nécessité unique, rien avant, rien de plus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Tréguer, réalisateur de télévision.
C'est très émouvant.
On interroge maintenant
ça.
Sur ce grand moment breton. Elle continue, les Sorgodec.
Oui.
8 vents qui soufflent, 9 korrigans qui dansent, etc.
Oui, jusqu'à 12, oui.
Et c'est... comment s'en souviennent-elle?
Alors voilà. Ça fait partie des mystères, disons, de cette culture bretonne orale, qui est quand même, on peut dire, disparaît ou est même disparu maintenant. Et on a réussi à en récupérer quelques bribes avec mon ami chercheur Donatien Laurent pour France Culture. C'était en fait une émission de France Culture, ce qu'on vient d'entendre. Alors cette série, donc, c'est une chanson à la fois populaire et en même temps c'est très savant et très mystérieux. Et la question, c'est comment se fait-il que des gens, même... les sœurs Guadette, je pense, ne sont pas analphabètes, mais pas loin. Donc, connaissent une chose pareille. Quand on leur pose la question, elles disent « Ah ben ça, c'est ma mère qui m'a appris ça au coin du feu, etc. » Et quand on leur demande « Mais qu'est-ce que veut dire ?» Elles disent « Ah ben ma mère m'a pas dit. » C'est-à-dire que à la fois, elles savent des choses très mystérieuses et apparemment très savantes, et déjà, elles ne savent plus très bien ce que ça signifie. Et alors, quand on a enregistré ça pour France Culture, avec Donatien Laurent, on s'est dit « Il faut qu'on fasse aussi de l'image, il faut qu'on les filme. » Donc, on prend rendez-vous pour l'année suivante. Et quand on arrive l'année suivante, Tazi venait de perdre son petit-fils dans un accident. Il dit « Ah, moi, je chante pas, je suis en deuil. » On dit « Oh là là, c'est la catastrophe. Peut-être plus jamais personne ne pourra enregistrer cette chose-là. » Et finalement, l'idée me vient, je dis à mon ami ethnologue, Donatien Laurent, « Est-ce que tu veux bien chanter avec ta nom ?» Et finalement, ça s'est passé comme ça. Ils ont chanté tous les deux, donc la vieille chanteuse traditionnel, l'ethnologue, je trouvais que c'était vraiment symbolique de les réunir, et ça a été diffusé sur TF1.
Avec quelle audience ?
Sûrement faible, puisqu'on m'a même, on m'a même rapporté une réflexion du directeur de la chaîne de l'époque, qui était Hervé Bourges, et qui a dit « oui, 2%. »
Avez-vous remarqué que vous aviez un goût pour les sœurs et les sœurs célibataires ? Parce que quelques années auparavant, à Ouessant, vous aviez filmé Michel
et Claudine.
Et Claudine vous leur avez même fait reconstituer une soirée de prière pour les marins morts.
Oui.
Et pendant leur constitution.
Oui. Ben, c'est-à-dire que, donc, effectivement, on a reconstitué ce qui se passait à Ouessant, quand quelqu'un était péri en mer, on faisait une veillée funèbre complète. Donc sans le corps, puisque le malheureux était au fond de la mer, mais en mettant une petite croix à la place, et on faisait la veillée funèbre complète, et à la fin, on allait mettre la petite croix dans une boîte dans l'église, ça s'appelait les croix de Proella. Et donc on reconstitue tout ça. Au début, les gens nous avaient dit « Oh là là, c'est dangereux de faire une chose pareille, il faut pas toucher à ça ». On le fait quand même. On réussit à réunir des gens et les deux sœurs, Michel et Claudine, et on filme la soirée, et à peine on a commencé à filmer, qu'une sirène se déclenche, il y avait un véritable naufrage.
Michel et Claudine vous racontent ici leur vie ordinaire, sans électricité, dans le froid. D'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs vont leur envoyer par container, enfin j'exagère, des réchauds des calorifères.
Comment vous vivez ici? Avec quoi vous vivez?
Avec quoi? On mange les pommes de terre. Quand il y en a. Alors c'est la bouillie, et des pâtes, et du riz alors, et du riz. Voilà le menu.
Et où est-ce que vous le faites cuire, tout ça?
Là, dans la cheminée. Dans la cheminée, là.
Vous n'avez pas d'électricité?
Oh non, rien.
Avec quoi?
Comment? L'électricité vient beaucoup moins cher que le pétrole, mais c'est l'installation qui coûte cher. Ah non, ça on ne peut pas. Et nous n'avons jamais été des gaspilleuses, parce que nous avons été toujours pauvres.
À quoi vous pensez le soir avant de vous endormir?
Je pense à la mort.
Vous avez peur de la mort?
Non. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout, du tout. Et je mourrai pour demain ce que t'as mieux pour moi. Indifférence. Ceux qui ont mérité iront là-haut. Ceux qui n'iront pas mérité iront avec Pluton en enfer. Et à la résurrection, les justes reviendront sur la terre. Et moi, quand je reviendrai à la résurrection, je vais aller à Caen. Je n'ai plus à l'île d'Ouessant. C'est vrai, ça. Non, non, je ne mettrai plus les pieds ici. Parce que j'ai eu trop de malaise ici. Et froid tout le temps.
À la résurrection, je ne reviendrai pas ici. J'ai eu froid tout le temps à Ouessant. Ouais, toujours le thème, quoi d'autre? C'est la même question qu'elle pose, la demoiselle d'Ouessant, que vous, tout au long de votre vie? Oui, quelles autres vies possibles?
Oui, absolument. J'ai toujours eu ce sentiment, m'a toujours habité, que j'aurais pu être autre que ce que je suis, et que aussi le monde aurait pu être autre que ce qu'il est. Hein, je pense que j'ai mené toute une réflexion sur l'émergence, disons, de notre réel à travers des coups de hasard, finalement. Hein, parce que quand on vraiment regarde comment s'est passé, par exemple, l'évolution de la vie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les espèces progressent? Pourquoi, après les singes, il y a les hommes, etc.? Eh ben, c'est pas du tout en vertu d'un plan préconçu par un dieu ou par un même par l'architecte, le grand architecte de Voltaire. C'est tout simplement parce que il y a des erreurs, des bugs, on pourrait dire aujourd'hui, qui se produisent dans la recopie des ADN. Et donc, 999 fois sur 1000, ben, c'est moins bien. Et donc, l'être qui en sort est détruit. Et une fois sur 1000, par hasard, c'est mieux. Et donc, finalement, toute la progression de l'espèce humaine, de l'évolution de la vie, c'est dû à une succession d'erreurs et non pas à une volonté quelconque. Voilà, alors ça me plaît bien, et je me dis donc que ça aurait pu être tout à fait différent. Je pense pas que si un jour des extraterrestres nous contactent, je pense pas que ce seront les mêmes que nous. Ils seront tout à fait différents.
L'homme est un fils de la Terre, je vous cite, né d'une succession de hasards que leur avènement mue en détermination. J'ai lu ça
oui.
Dans un livre classique que vous avez publié il y a quelques années qui s'intitule Aborigène occidental.
Oui.
Mais alors, comme l'avenir vous appelle, quoi d'autre? Au bout d'un moment, c'est pas que vous n'ayez pas de public, c'est pas que vous n'ayez pas d'éditeur. Vous vous êtes dit, dernière partie de la vie de Michel Tréguer, qu'il mène depuis Plouguerneau en Bretagne, eh ben, je vais m'auto-éditer, auto-édition numérique.
Oui.
Je suis un média, moi, tout seul.
Voilà. Enfin, il y avait d'une part le fait que j'avais plusieurs textes et que j'avais envie de... Je pouvais peut-être trouver un éditeur pour tel ou tel de ces textes, ou deux éditeurs, mais j'avais envie de les publier tous ensemble, sous des couvertures qui se ressemblent, et donc d'avoir une espèce de petite série, si vous voulez. Bon. Et alors, j'ai découvert, effectivement, l'auto-édition numérique. Alors, l'auto-édition, autrefois, c'était affreux. Il fallait faire imprimer un livre et puis le déposer au bureau tabac du coin ou chez le pharmacien, et puis revenir voir si il en avait vendu. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, il va me falloir citer le nom d'une société internationale qui est en l'occurrence Amazon. Amazon permet à qui veut d'auto-éditer des livres qui sont vendus dans le monde entier, immédiatement.
C'est-à-dire que vous passez par les entrepôts d'Amazon et les robots d'Amazon qui vous imprime aux États-Unis,
oui,
à destination du public américain.
Mais moi, je vois rien de tout ça. Moi, je suis chez moi avec mon ordinateur, j'écris un texte, et puis je dis donc, alors c'est même pas Amazon exactement, c'est une succursale d'Amazon qui s'appelle Create Space, et donc tout est gratuit. Et à un moment donné, on leur dit, ben voilà, mon texte est prêt. Ils disent, vous avez une couverture. Si vous en avez une, vous la donnez. Si vous n'en avez pas, ils vous proposent des modèles. Et ensuite, la chose est faite. C'est entièrement gratuit.
Vous voyez rien de tout ça, mais je reviens aux entrepôts qui vont détruire, peut-être, ou contribuer à détruire, le réseau aussi précieux de ces lieux de vie que sont les librairies. Témoignage de Jean-Baptiste Mallet.
Piqueur, c'est celui qui arpente les nombreux kilomètres de rayonnage, en fait, des entrepôts, et donc qui marche 20 kilomètres par nuit, et qui donc va chercher les nombreux livres, CD, aspirateurs, enfin, toute la marchandise, en fait, que commercialise Amazon, et donc qui empile la marchandise sur des chariots, et ensuite les emmène à un packer qui, lui, est statique, et qui fait des cartons à la chaîne. C'est un travail d'usine, un travail ouvrier.
Combien d'articles par nuit ?
Si on veut être gardé et bien vu, le piqueur modèle travaille à 130 articles à l'heure, donc il faut multiplier ça par le nombre d'heures travaillées. En général, c'est 7 heures pour les équipes de nuit et 8 pour le jour, c'est colossal.
Vous êtes suivi en permanence, comment ?
Eh bien, il y a ce petit scan hein, qui nous géopositionne dans l'entrepôt, donc il y a des bornes Wi-Fi un peu partout, et donc les contremaîtres savent en permanence à quel rythme on travaille, quel produit on est en train d'emballer, et les contremaîtres, plusieurs fois par nuit, nous indiquent notre productivité, et donc il peut bien évidemment détecter les temps de pause suspects s'il y en a.
Mono-éditeur Michel Tréguer, mais il y a des piqueurs et des packeurs.
Oui, non, mais je veux dire, il ne faut pas mélanger, disons, le libraire Amazon avec la société qui permet à qui veut, gratuitement, d'imprimer des livres et de les vendre dans le monde entier. Moi, quand j'ai découvert ce que je considère être une merveille, je me suis dit, bah, bon, d'accord, il y a sûrement des reproches à faire à Amazon au niveau de l'emploi ou des impôts, etc. et tout, mais par contre, au niveau de cette possibilité qu'elle offre à tout humain, c'est quand même assez extraordinaire. Et ma question serait plutôt, comment se fait-il que ce ne sont pas des Français qui ont inventé ça ? Pourquoi ce sont toujours des Américains, des jeunes Américains, des étudiants américains qui ont inventé Google, qui ont inventé Amazon, qui ont inventé toutes ces sociétés ? Pourquoi ce n'est pas nous ?
Alors, ils sont tournés vers l'avenir, ces jeunes Américains. Prenons de la hauteur et revenons au jadis. Comptons en millénaires, comme vous aimez le faire.
Oui.
Vous trouvez que l'hypertexte, ce monde dans lequel vous entrez permet le commentaire, l'interprétation, une dissolution dans la discussion de la vieille notion d'auteur. Et ça vous rappelle la culture juive.
Oui, absolument. C'est l'autre grande... disons que mon retour en Bretagne, ça a été effectivement la redécouverte de quelque chose qu'on ne m'avait pas présenté, qu'on m'avait caché, alors que c'était mes neurones, mes cellules. Mais l'autre grande affaire de ma vie, c'est effectivement la découverte de la culture juive. C'est-à-dire que j'ai trouvé chez les talmudistes juifs qui ne s'accommodent jamais d'aucune certitude et qui veulent toujours tout remettre en question, tout vérifier, des frères. En gros, hein. De même que du côté celtique, c'est Donatien Laurent, le grand ethnologue, qui a été mon initiateur et mon ami. Du côté juif, c'est Henri Atlan. Henri Atlan, que je connais aussi depuis 40 ans, avec qui on pratiquement chaque semaine, mais en tout cas chaque mois, nous échangeons des messages, des commentaires sur l'actualité. Et autant je ne suis pas du tout attiré par les dogmes figés comme ceux du christianisme, autant la méthode juive de toujours tout remettre en cause jusqu'à l'existence de Dieu, quand on les écoute bien, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait admirable et qui honore l'humanité.
Et comme le disait, on peut conclure avec lui, le grand rabbin Bernheim, la religion des autres, c'est celle qui nous intéresse le plus parce qu'elle nous interroge. Alors je recommande Aborigène occidental et puis la méthode pour trouver les livres qui ne sont plus édités par Mille et une nuits ou Dialogue de Michel Tréguer.
Eh bien, il faut taper mon nom sur Amazon et on peut avoir accès à 7 ou 8 livres.
Et puis on peut aussi passer par le site de la Marche de l'Histoire, enrichi par Frédéric Martin et Linka Negulesco dans l'équipe Franck Collivard et Céline Loriou. La réalisation, c'était Jacques Sigal et à la technique Arnaud Caillet.